veulent sauver un système hospitalier qu'ils jugent à l'agonie. À l'origine de la mobilisation, la grève des urgences. Plus de 260 des 650 services en France sont touchés. Le mouvement a débuté à Paris, mais depuis, il a fait tache d'huile. Il s'étend à d'autres villes comme ici à Strasbourg et à l'ensemble des services.
Et c'est l'ensemble du système qui est aujourd'hui à bout, qui est aujourd'hui grippé, et il faut des solutions.
Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'hôpital est le facteur humain. Un système à bout, grippé, des solutions à trouver. Depuis 10 mois, les blouses blanches réclament l'ouverture de vraies négociations sur le budget et les salaires. Demande renouvelée dans une tribune publiée avant-hier et assortie d'un nouvel appel à la grève. Ce sera pour le 14 février. Invité aujourd'hui de la grande table des idées, le neurochirurgien Stéphane Velute, auteur dans la collection Tracts de Gallimard de L'hôpital, une nouvelle industrie. Le corps soignant s'épuise. Écrit-il, pour penser les remèdes, il faut comprendre le malaise et le dessein dans le sens de projet, celui de faire de l'hôpital une nouvelle industrie. Bonjour Stéphane Velute.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Hôpital de demain, hôpital sans humain, ça c'est un des slogans qu'on pouvait lire dans les manifestations, les mobilisations de personnel soignant, slogan inscrit sur des pancartes. C'est aussi une crainte, c'est par ailleurs un constat, que vous faites de l'intérieur. Pour vous présenter un peu, vous êtes praticien depuis plus d'une trentaine d'années dans un CHU et vous le dites. Votre pratique, votre métier, est-ce que vous l'avez vu évoluer au quotidien ?
Ah, le métier, bien sûr, je l'ai vu évoluer au quotidien. Je l'ai vu évoluer aussi sur plusieurs années, c'est-à-dire que on a vu des techniques, notamment dans ma spécialité, apparaître de très haut niveau et permettant des gestes qu'on ne se permettait pas. Ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années. Par contre, je me suis rendu compte assez tardivement de ce qui s'est passé de ce qui se passait justement au quotidien. Je me suis réveillé tard et il a fallu que j'entende un discours, que je me mette à lire la nouvelle façon de parler, d'écrire de ceux qui gèrent l'hôpital. Et des consultants qui les recrutent parfois, pour que je finisse par me dire que quelque chose avait changé, mais qui m'avait échappé. Et c'est donc ce que j'écris dans ce petit texte.
Et vous parlez de ces mots électrochoc, hein,
oui.
Stock, flux, excellence,
voilà.
Des mots que vous n'aviez pas l'habitude d'entendre
auparavant. Alors, le contexte est spécial, c'est-à-dire que, en réalité, on m'a convié à une réunion où il y avait le membre d'un cabinet de consulting qui était là pour, faire accepter un fait dont on va parler dans un nouvel hôpital qui serait construit dans les années 2025-2026. Et il a utilisé cette phrase que je note, hein, et qui est la suivante. Dans une démarche d'excellence, il va falloir transformer l'hôpital de stock en hôpital de flux. Et c'est ça qui m'a réveillé. Hein. Cet épisode date de 2 ans. Et donc, je me suis dit que ce langage qui était très nouveau était probablement le symptôme de quelque chose que je n'avais pas vu depuis que j'exerce, depuis le début des années 80.
Mais de quel stock on parle ?
De quel stock on parle ? De quel flux on parle ?
De quel flux on parle ?
Voilà. Alors effectivement, ce sont les gens. Ce sont les malades. C'est-à-dire que... et là, c'est ce que j'essaye d'analyser pour comprendre exactement pourquoi on en est venu là. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup cette espèce de volonté de faire, je dirais, de la maladie une matière première et de la guérison un produit fini. Vous voyez ? Comme si entre les deux, nous étions dans une sorte d'industrie.
De chaîne.
De chaîne. Mmh. À la différence que il s'agit pas de voitures, il s'agit pas d'autre chose que des gens. Et c'est ce fait-là qui m'a frappé et que j'ai essayé de comprendre en reprenant d'anciens courriels, d'anciennes notes, d'anciens comptes rendus de réunion, d'anciennes gazettes de l'hôpital, depuis quelques années, pour voir à quel moment le langage avait changé. Et il a changé à peu près dans les années 2015-2016. Il a radicalement changé au profit d'un langage. Bon, quand vous regardez d'où vient ce langage, en fait, vous n'avez pas beaucoup à faire. Il suffit d'acheter la Harvard Business Review. Vous savez, c'est cette école de Harvard Business School de management, qui vous apprend comment diriger une équipe, on y trouve des termes assez étranges, comment s'adapter à la transversalité de projet, afin de parvenir à une meilleure agilité, enfin des choses qui sont extrêmement, enfin très étrangères à la pratique quotidienne de quelqu'un qui soigne, qu'il s'agisse de l'infirmière, du brancardier ou du chirurgien.
Alors, là est peut-être la toute petite nuance à apporter, mais on va voir quand même les effets de ce changement de langage, c'est que ces mots n'ont pas été employés par un médecin, un infirmier ou une infirmière, mais par un cabinet de conseil, un membre d'un cabinet de conseil.
Ça, oui.
Donc, au moins dans le rapport que le personnel médical, le personnel soignant peut avoir avec ses patients, là, cette vision au cœur de l'hôpital, cette vision humaine reste ou peut rester jusqu'ici préservée par les praticiens eux-mêmes. Mais ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est de voir, l'hôpital a toujours été géré, les CHU notamment sont aussi des grosses structures, il a toujours fallu gérer, oui. Mais vous dites, vous avez l'air de dire qu'il y a une autre manière de gérer aujourd'hui,
une autre
qui s'entend à travers les mots.
Exactement. Alors, moi je dirais, si vous voulez, que je pense qu'il faut qu'on fasse un tout petit peu d'histoire et remonter peut-être... au XVIIIe siècle, à une époque où, il faut bien le dire, le corps soignant était très, très estimé. Et ce corps soignant, d'ailleurs, en parenthèse, il était, je dirais, presque sous l'influence, enfin tissé d'une fibre sacerdotale héritée des sœurs de l'Église catholique. En sorte que... les médecins, les infirmières, enfin tout ce que j'appelle le corps soignant, a toujours travaillé dans une sorte d'abnégation. Hein. Et cette estime dont a toujours bénéficié le corps soignant, elle a grandi obligatoirement après les deux guerres, puisque, on le sait, ce corps soignant s'est particulièrement distingué durant notamment la première guerre mondiale. Et puis petit à petit, c'est ce que j'essaye de montrer, il y a eu des changements dans la structure sociale, disons. On a vu deux choses. D'abord, une montée en puissance de l'individualisme, une montée en puissance de la réclamation des droits de toutes sortes, et ce qui a fait du bien-être un droit demandé à tout prix. Et d'un sujet d'estime, on est passé, le praticien est devenu un sujet d'attente. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que, il faut bien dire qu'à la faveur de la désindustrialisation, de l'industrialisation de l'agriculture et de l'élevage, on a vu progressivement apparaître une perte d'estime envers la main, envers le travail manuel, envers l'artisanat. Et cette perte d'estime a fait que tout un pan de la société qu'on qualifiait autrefois d'élite, c'est-à-dire c'était le restaurateur de tableaux, c'était le pilote de ligne, c'était, enfin, tous ces corps d'élite n'ont plus été nommés tels au profit d'une élite qui est devenue pratiquement cantonné aux grandes écoles d'administration, quoi, finalement. Quand vous dites maintenant élite à l'homme de la rue, il vous dit c'est les gouvernants, c'est l'ENA. Et là, on a vu progressivement, de ce fait, du fait même de la perte d'estime de la main, survenir au sein même de l'hôpital, alors qu'on pensait qu'on en était protégé, ces adeptes de cette élite, hein, de type énarque, qui a fait de nous non plus un sujet d'attente, mais un simple sujet. Alors, c'est asymptomatique d'ailleurs parce que j'ai repris un petit peu d'histoire de les administratifs hein, qui ont de gros problèmes de gestion. Hein, ça, on pourra y revenir. Étaient formés jusque-là dans ce qu'on appelait l'École nationale de santé publique. Et cette école a changé de nom. Elle est devenue l'École des hautes études en santé publique. Bon, vous me direz que j'accorde peut-être un petit peu trop de valeur et d'importance aux mots, mais je crois que dans ce langage, on a vu que justement, ce qui était... Alors, vous me parliez de gestionnaire.
Mais quand vous entendez, c'est ça qui est intéressant, si on reste sur la question du langage, quand vous entendez ce jeune consultant que vous comparez à une grenouille perdue dans une salle des machines, employer ces mots de flux, de stock, d'excellence, ces éléments de langage, oui, en réalité. Oui. Vous pensez que c'est volontaire, que c'est conscient? Vous avancez la piste de la fabrique du consentement.
Oui, c'est la fabrique du consentement. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé.
Non, mais vous
l'avez dit. Elle a été étudiée.
Concernant cette situation-là aussi. Oui, sur cette utilisation d'un métalangage.
Oui, un métalangage qui, à l'évidence, en fait, moi, j'ai toujours pensé que, je pense que, on peut mentir avec sa langue, mais le langage ne ment pas. Et là, on a vu, je crois, grâce à ce langage, l'expression d'un fait qui me paraît très important, c'est que le gestionnaire hospitalier, qui gérait, autrement dit, l'argent, les recettes, les sorties, tout le côté hôtellerie, les recrutements, etc., s'est hissé progressivement au rang d'administrant. Il n'a pas pu faire autrement parce qu'il devait faire des économies de façon radicale. Et pour ce faire, il a été obligé d'utiliser un langage qui n'a pas la sincérité du langage que nous on emploie parce que confronté à la mort, à la maladie, à la souffrance, à l'angoisse, voyez. Et je crois que c'est assez anecdotique en réalité. Je vous interromps, c'est anecdotique ce consultant. Mais le problème, c'est que le langage de ce consultant, il est utilisé maintenant.
Ce qui n'est pas anecdotique, c'est la place du langage dans l'hôpital. Elle est essentielle. Donc c'est là aussi où quand les mots commencent à changer, ça peut alerter, et le langage est au cœur de la relation entre le soignant et le patient
tout
aussi.
Tout à fait. Hein. Mais comment, alors, donc, voilà, comment se mettre à la place de quelqu'un qui doit gérer, qui doit faire des économies? Bon, vous savez qu'il y a eu plusieurs solutions qui ont été tentées, la T2A, c'est-à-dire le... agir sur les recettes, ensuite agir sur les dépenses, etc. Et en fait, rien n'a vraiment marché. Bon, la T2A, malheureusement, on sait que ça marche pas, mais on l'a conservé bien. En réalité, on s'aperçoit maintenant que la seule façon de faire de réelles économies, c'est de réduire le nombre de lits. Réduire le nombre de lits, c'est indicible. C'est indicible. Donc, on parle, je me suis entendu dire, on parle de redimensionnement capacitaire. Alors, bon, ça veut tout dire. Ça veut dire que, plutôt que de dire clairement au public, au corps soignant, on réduit, on redimensionne. Et je pense que là, c'est ce manque de sincérité qui fait que le malaise est grand.
Je vous propose d'écouter les mots d'une de vos consoeurs, la professeure Hartmann. Elle est chef du service diabétologie de la Salpêtrière et elle évoquait la tyrannie de cette gestion et le poids de cette rentabilité nouvelle telle qu'elle est et elle est demandée sur les pratiques des praticiens.
Je me suis rendu compte que dans les réunions hebdomadaires où on parle avec tout le personnel de ces patients, je devenais une espèce de robot à dire quand est-ce qu'il sort? Quand est-ce qu'il sort? Quand est-ce qu'il sort? Parce que dans ma tête, je me disais, ça fait 15 jours qu'il est là. Il occupe la chambre. Je ne vais pas pouvoir faire du séjour. Et c'est les jeunes, les infirmières qui me regardent. Et maintenant, je sais que quand on commence à me regarder comme ça, c'est que je ne suis plus éthique. Et je me ressaisis et d'ailleurs, je leur dis, oubliez jamais pourquoi les patients sont là. Rappelez-moi cette réalité. Je dirais qu'en plus, les difficultés qu'on a dans ces maladies chroniques sont des patients pas rentables. C'est-à-dire quand vous rentrez avec un abcès, une gangrène, vous êtes rentable. C'est compliqué à comprendre pour vous. Hein. Vous êtes rentable au début de votre hospitalisation. Mais si on vous débouche les artères, vous êtes encore rentable. Par contre, si on n'arrive pas à vous déboucher les artères, vous commencez à ne plus être rentable du tout. On va vous garder un certain temps parce que votre plaie est complexe. Et donc, au fur et à mesure que les jours passent, l'hôpital commence à perdre de l'argent. Par malchance, vous êtes amputé au bout d'un mois et demi, en nous ayant dit, tenez bon, faites tout ce que vous pouvez. On a fait tous les soins. Hein. Malheureusement, parfois, on perd. Le patient est amputé. Il redevient rentable. Voilà où on en est avec la T2A. Voilà.
Voilà, la tarification à l'acte ou à l'activité. Oui. Qu'est-ce que vous entendez, vous, dans ces mots de cette consoeur ?
Alors, écoutez, moi, on est frappé quand on entend justement cette médecin, diabétologue, par la sincérité de ce qu'elle dit. On est frappé par la simplicité de ses mots. Et surtout, on est frappé par le fait qu'on n'avait jamais entendu ça. On n'avait jamais entendu ça dans un média. En tout cas, vous, disons le public n'avait jamais entendu ce type de discours. Alors, le corps soignant, effectivement, a ceci de particulier, et là, je voudrais expliquer pourquoi on n'avait jamais entendu ça, qu'il est plutôt taiseux. Pour une raison simple, c'est que, au sein même du lieu où il travaille, faire part de son malaise manquerait de pudeur. Il reste l'espace public. Mais encore une fois, et là je crois que c'est justement un héritage des sœurs de l'Église catholique dont je parlais tout à l'heure, la rue n'est pas sa tribune, n'a jamais été sa tribune. Or, et là je crois qu'il faut bien comprendre, que le public comprenne que ce corps soignant était désabusé il y a quelques années, désenchanté plus récemment, et là, on le sent, il est en état de désarroi. Moi, ce que je crains, si vous voulez, c'est que ce désarroi finisse par avoir raison de son abnégation. Et c'est ça qui me fait peur. Alors, bien sûr, on pourra toujours avancer des mesures qui sont des mesures prises en urgence. À mon avis, c'est pas la meilleure des choses que de faire. Bon, là, je vais pas donner de conseils, je suis pas politique, mais que de faire la politique à très court terme, des primes, des. On pourra adoucir un petit peu les choses, mettre de l'adoucisseur dans cette machine, mais toutefois, faut quand même savoir que. Justement, le corps soignant est toutefois lessivé, vous voyez.
Qu'est-ce qui manque fondamentalement ? Vous évoquez très vite dans cet ouvrage, L'Hôpital, une nouvelle industrie, qui paraît chez Gallimard, ce petit tract, cette collection de combats, imaginée par Régis Debray. Vous évoquez très vite le facteur humain. Il y a un problème de considération, d'abord.
Il y a un problème d'estime, bien sûr. Il y a un problème d'estime, que j'ai tenté d'expliquer tout à l'heure. Il y a aussi cette sorte d'injonction qu'on nous impose dans l'ambulatoire, dans un circuit rapide, vous voyez. C'est-à-dire que on a l'impression un petit peu, ce que disait Madame Hartmann le traduit bien, qu'il faut qu'on fasse rentrer maintenant les patients dans une sorte de. Dans une sorte de circuit, effectivement, qui serait souffrir, soigner, circuler. Vous voyez, donc on revient un petit peu sur l'hôpital de flux. Or, ça n'est pas du tout la culture du corps soignant, c'est pas du tout sa façon de fonctionner. On a besoin de lenteur, la lenteur n'est pas une inertie. On a besoin d'échanges. Et la notion de rentabilité, comme elle le disait, nous est très éloignée. On a tort, probablement, mais elle nous est totalement éloignée. Et il est, à mon sens, impossible de faire le moindre acte de soin que ce soit en pensant à sa rentabilité. Or, on nous demande maintenant d'y penser en permanence. Et ce qu'elle dit, je la rejoins, c'est pratiquement insupportable.
Le praticien, jusqu'alors sollicité pour faire ce qu'il pouvait, s'est vu progressivement vers la fin des années 80 sommé de pouvoir faire, écrivez-vous Stéphane Velute. Inévitablement, une judiciarisation des rapports entre soignants et soignés s'est fait jour, imitant les États-Unis avec juste quelques années de retard. Pourquoi ? Qui a intérêt à vouloir transformer l'hôpital en industrie pour vous aujourd'hui ?
Bon, le fait de transformer l'hôpital en industrie permet de répondre à la politique de la diminution du nombre de lits. La politique de la diminution du nombre de lits permet a priori ou permettrait a priori de réduire les dépenses. Tout simplement parce que si vous avez moins de lits dans un service, vous êtes obligé de faire un tri. C'est la seule, peut-être le seul paramètre sur lequel le gestionnaire a un pouvoir. Quelle était votre question ?
Qui aurait intérêt à vouloir transformer
industrialiser les
pratiques aussi, alors, parce ça implique une question d'échelle dans la manière dont vous le formulez.
Ça, c'est le symptôme, la façon de vouloir gagner de l'argent, ou en tout cas moins en perdre, c'est la réduction du nombre de lits. Bon, l'intérêt, je pense qu'il est purement néolibéral. Il faut pas se tromper. en réalité, j'ai presque la conviction que on ne veut plus du CHU tel qu'il est actuellement. Je prendrai un exemple encore aujourd'hui. Mettons une dame qui travaille dans la banlieue de Paris, qui a des petits revenus, qui vit seule. Elle peut être aujourd'hui opérée d'un triple pontage coronarien par le meilleur chirurgien cardiaque du pays. Je pense que dans 10 ans, ça sera plus possible. Ça sera plus possible.
Pourquoi ?
Parce que on va tout droit vers une libéralisation de la médecine. Tout droit vers le déport de nos activités vers le secteur libéral. Parce que, il y aura probablement d'un côté, dans un secteur libéral, des actes rentables, c'est-à-dire certainement de très haut niveau, sur des patients dont la durée moyenne de séjour, j'ai horreur de ce terme, mais sera courte, donc ils vont vite récupérer, qui auront les moyens de payer chèrement ces soins, et puis il y aura les autres. Et je pense que les autres, c'est-à-dire ceux qui seront moins fortunés, les indigents, qui auront des pathologies très difficiles à guérir, ils iront dans l'hôpital dit public. Et probablement on s'oriente vers ça. Je pense qu'on s'oriente vers ça très doucement. Bon, et c'est ce qui rend insupportable le fait, parce que finalement, le problème, il est simple, c'est que le CHU est un creuset de formation. Si on fait la médecine que je viens de vous décrire à grands traits, peut-être pessimiste, le creuset de formation disparaît. À moins que les instituts privés, grâce à des moyens qui seraient apportés par des grands groupes industriels, les assurances, etc., assurent aussi une partie de la formation. Bon, là, on rentre dans des choses qui sont un peu à l'américaine, qui feraient que la médecine serait plus apprise dans les universités.
Ce qu'on comprend, et la crainte, c'est qu'aujourd'hui, le flux de patients, alors, comme on dit aujourd'hui, le flux, engendre aussi la fuite des praticiens.
Alors, la fuite des praticiens, c'est le problème.
Ouais.
C'est le problème majeur. C'est-à-dire que, actuellement, un jeune chirurgien qui a été remarquablement formé en orthopédie, en neurochirurgie, en cardiologie.
Vous n'arrivez pas à le garder.
On peut pas le garder. Il part. Mais il faut dire que, dans les cliniques, il part. Mais il faut dire que quitter le seuil, quitter l'entrée de l'hôpital, ses revenus sont multipliés par 6, 7, 8. Comment voulez-vous qu'on les garde ?
Vous, pourquoi vous êtes resté ?
Parce que j'aime enseigner. Parce que je suis attaché au service public. Parce que la spécialité que je fais demande un plateau technique aussi très très lourd. Je vais vous dire. Pour moi, le bloc opératoire, c'est un petit peu l'atelier du peintre, vous voyez. Et ben c'est ce que j'aime, c'est-à-dire c'est transmettre aux jeunes internes l'apprentissage du geste, un peu comme c'était fait à l'époque de Bruegel ou de Rembrandt. Vous voyez, c'est ça que j'aime et je suis resté pour ça.
Voilà, et vous parlez d'ailleurs du soin comme l'art. L'art et le soin n'ont pas de prix. On ne peut pas donner un prix à l'inestimable. C'est aussi ce que vous traduisez dans ce court essai « L'hôpital, une nouvelle industrie, le langage comme symptôme » qui paraît chez Tract, la collection de Gallimard. Stéphane Velut, vous êtes neurochirurgien et vous êtes notre invité jusqu'à 13h30.
France Culture. La grande table, Olivia Gesbert.
Le neurochirurgien Stéphane Velut est avec nous depuis 12h55 pour cette grande table des idées consacrée aujourd'hui à l'hôpital public. L'hôpital est le facteur humain. Comment le préserver aujourd'hui? Qu'est-ce qui le menace? On en parle ensemble déjà depuis une vingtaine de minutes. Et vous racontez dans ce court essai, Stéphane Velut, comment notamment le praticien est mis à contribution par ses nouvelles pratiques et ses nouveaux managers pour lui-même manager. Donc il y a des journées de séminaires pour apprendre. Donc il y a cette obligation de gérer ce qu'avant on pouvait consacrer en termes de temps à s'occuper de ses patients. Depuis des mois, les personnels de santé multiplient justement les actions de sensibilisation simples comme une pétition, pénalisante comme la grève du codage ou spectaculaire comme la démission de près de 1200 chefs de service de leur fonction d'encadrement pour, disent-ils, sauver l'hôpital. Public.
Cette démission est un geste politique très fort et nous la faisons avec tristesse et la mort dans l'âme.
Je traversais mon hôpital tout à l'heure pour venir à cette conférence de presse. J'ai de l'émotion. Je me disais, c'est un honneur de devenir chef de service. C'est une reconnaissance de votre équipe, de vos pairs, de vos collègues. Et là, j'avais l'impression de venir à une sorte d'enterrement.
Un enfant qui a été maltraité, qui est hospitalisé en neuropédiatrie et qui attend une place en pouponnière parce qu'il est placé, eh bien, il ne rapporte pas d'argent et il coûte beaucoup. Et on ne peut pas être dans un système où on nous dira un jour, on ne peut pas soigner ces patients-là parce qu'ils ne sont pas rentables.
Vous appuyez, vous, ce type d'action un peu un
oui,
peu
j'ai signé. Ouais. J'ai signé cette, bien sûr. Oui, d'autant que la lettre initiale qui avait été rédigée à l'intention de Mme Buzyn par le collectif convient bien et se rapproche assez d'ailleurs de ce que j'écris. Vous parliez tout à l'heure du médecin à qui on demande maintenant de devenir manager. Alors c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à expliquer. On voit effectivement que finalement ce qui se passe, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gestionnaire que j'évoquais tout à l'heure, qui jusqu'alors, jusqu'en dans les années, 2005, 2010, s'occupait donc de la partie financière. Et progressivement, pour faire des économies, il a voulu s'immiscer dans le parcours de soins. S'immiscer dans le parcours de soins, il a utilisé le langage. Donc un langage qui était intimidant parce qu'on ne comprenait pas. On l'a vu aussi se diviser, c'est-à-dire que quand je dis diviser, je parle de division cellulaire. On a vu une inflation du corps administratif absolument considérable. Et puis maintenant, troisième étape, une confusion des genres, c'est-à-dire qu'on nous demande, on me demande moi, de devenir un manager. Alors là, c'est quelque chose que je comprends assez mal. Encore qu'on pourrait imaginer que, en étant manager, je deviens responsable de tout ce qui marche pas. Mais il est évident que le management, pour moi, est aussi éloigné que pour un manager la neurochirurgie. Donc, c'est ce que je dis, me demander d'être un manager, un petit manager, c'est un petit peu. En 15 jours, c'est un petit peu comme si je demandais à un gestionnaire ou un spécialiste des finances publiques de devenir obstétricien durant un séminaire de la même durée. On est là, c'est totalement absurde. J'ai pas d'explication à ce fait, mais ça relève d'une réelle absurdité.
Pour rendre le soin rentable, il a fallu le domestiquer. Racontez-vous aussi, Stéphane Velu. Oui. Vous parlez aussi de ces injonctions contradictoires que vous rencontrez au quotidien comme praticien, soigner rentable, mais aussi soigner vite, et la difficulté, bien sûr, à les mettre en application. On a juste quand même évoqué ensemble, il nous reste 2-3 minutes, les réponses possibles, les attentes des personnels soignants aujourd'hui, avec une mobilisation qui ne faiblit pas, qui va encore se traduire le 14 février dans la rue par une mobilisation perçue comme une déclaration d'amour à l'hôpital public à l'occasion de la Saint-Valentin à cette date-là. Plusieurs appels qui paraissent encore dans la presse, des clips réalisés aussi par des personnels de santé, histoire d'attirer l'attention. Au fond, qu'est-ce qu'on peut dire ou faire aujourd'hui pour redonner envie, pour sortir les médecins, les infirmiers de ce désarroi que vous évoquiez, Stéphane Velu?
Injonction contradictoire, je vous donne un exemple. Je suis dans un service où il y a le nombre de chirurgiens qu'il faut, le nombre d'infirmières qu'il faut. Je n'ai plus que, sur 3 salles d'opération, je n'en ai plus que 2 qui fonctionnent parce que les anesthésistes sont partis. Bon, ils partent parce que l'hôpital, comme on l'a dit durant ces 30 minutes, connaît beaucoup de problèmes d'organisation d'une part, et parce que l'appel du privé est très puissant. Bon. Déjà, il faudrait, je crois, rééquilibrer les revenus entre le secteur public et le secteur privé pour éviter ces fuites, parce que finalement, les fuites, elles concernent pas les médecins, elles concernent les infirmières, elles concernent le personnel en général. Donc là, il y a un problème majeur à régler. La deuxième chose qui me paraît absolument essentielle, c'est de redonner au corps soignant la main sur l'organisation de ses soins. Je ne prétends pas avoir la main sur la gestion financière. Parce que je n'ai aucune compétence. Redonner aux médecins la main.
Qui a pris la main pour l'instant sur cette organisation des soins?
C'est le gestionnaire qui est devenu administrant. Tout le problème est là. C'est un problème majeur. Bien sûr, il faut aussi réduire la consommation des soins. Ça, c'est un problème sociétal qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, qui peut demander plusieurs années. J'évoque aussi d'autres solutions. Assez simples. Mais je crois qu'il faut avoir conscience que sauver l'hôpital public actuellement, c'est pas en un an qu'on le fera, c'est 5 à 10 ans.
Voilà, et vous évoquiez les pistes avancées par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, tout à l'heure, en estimant que c'était encore juste un pansement mis aussi sur le problème. Mais il y a peut-être un début de prise de conscience, il va falloir aller beaucoup plus loin.
J'espère que cette prise de conscience du public va faire en sorte que les choses se débloquent. Mais je pense que Mme Buzyn a, elle aussi, des contraintes qu'elle ne maîtrise pas, même d'ordre politique.
Et ben voilà, les propositions pour l'instant, c'est la reprise d'un tiers de la dette et une rallonge budgétaire de 300 millions d'euros en 2020, c'est-à-dire cette année. Merci beaucoup à vous, Stéphane Velu, d'avoir été avec nous. L'hôpital, merci. Une nouvelle industrie, le langage comme symptôme. Votre essai vient de paraître dans la collection Tract de Gallimard. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table, à Laura Dutèche-Pérez, Oriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Sophie Marty et de François Bréus, à Jean-Christophe Brianchon et à Bruno Barada qui vient nous rejoindre et à qui on dit bienvenue à la réalisation aujourd'hui. C'était Gilles Blanchard avec à la vidéo, je ne sais pas d'ailleurs, mais au son, Cindy Le Grumelec et Jordan Fuentes. Merci en tout cas à toutes les équipes de France Culture. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à lundi.